Alors nous sommes encore au quotidien mêlés aux questions que pose la pandémie. Ce virus présent dans le monde entier a suscité peur, angoisse, ce virus qui tue les plus fragiles a aussi parfois bousculé nos certitudes. Il a en tout cas instauré un climat de peur au plus profond de nos inquiétudes. En qui avons-nous mis notre confiance? En qui mettons-nous notre confiance? Aujourd'hui, en nous appuyant sur le livre des juges et sur l'histoire de Gédéon, nous répondrons avec notre invité à la question « Comment vaincre quand on croit que tout est perdu ?» Frère Daniel Marie, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors vous êtes religieux, franciscain, ici au couvent de Bruxelles, et vous avez choisi de revenir sur cette actualité à travers un texte issu du livre des juges dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Gédéon. Pourquoi cette histoire d'un drôle de prophète vous a inspiré?
Parce que Gédéon, c'est un peu un héros et un anti-héros à la fois. C'est d'abord quelqu'un qui se planque, et ensuite c'est quelqu'un qui s'érige ou qui se laisse ériger en vainqueur et en général d'armée. Et puis ensuite, c'est quelqu'un qui se laisse vaincre par Dieu. Alors ça, ça offre toutes les possibilités par rapport à ce Covid ou par rapport à la crise ou n'importe laquelle de tes crises, chers éditeurs, sur lesquelles tu penses ne pas avoir de prise.
Vous avez un nouveau message ? Madeleine Vatel.
Frère Daniel Marie, comment est-ce que vous réagissez à l'expression justement de ces peurs suscitées par la pandémie, par la maladie, par l'inconnu? D'après vous, qu'est-ce qui nous effraie?
Ce qui nous effraie, c'est d'avoir peur. C'est-à-dire que le vrai virus, c'est la peur. Alors, je ne veux pas rentrer, surtout pas rentrer dans le débat vaccin, pas vaccin ou le reste. Bon, le vrai problème, ce n'est pas le virus ou le vaccin en soi, c'est la façon dont on en parle. Et c'est-à-dire ce que ça suscite à l'intérieur d'entre nous de passion, de peur, de crainte, et c'est ça qui est le vrai problème. Donc, en face de cela, comment est-ce que je réagis? Et c'est la problématique de Gédéon. Comment il se situe, lui, par rapport à la peur et par rapport à la crise? Je crois que c'est une question de positionnement.
Vous avez choisi, frère Daniel Marie, de plonger dans le texte de Gédéon. Alors, c'est une drôle d'histoire qui se déroule dans le livre des juges. Les juges, ce sont ces chefs militaires. On est dans une période où les tribus d'Israël se cherchent des chefs. C'est un livre qui raconte justement ce moment entre la conquête de Canaan, un territoire qui prie plutôt les idoles, et puis l'apparition de la royauté. Alors, c'est une période de danger, c'est une période où il faut se défendre. Et le livre des juges, eh bien, c'est un livre de héros, de guerriers. Et on va justement suivre celui qui va se battre contre les Madianites. Notre héros, alors c'est Gédéon, mais on peut dire qu'il ne s'attendait pas du tout à ce qui va lui arriver.
Eh bien, comme toi, cher auditeur ou auditrice qui m'écoute en ce moment, tu as en toi ce héros et tu ne le sais pas encore. Et peut-être que toi aussi, et comme moi, comme cela m'arrive souvent, comme chacun d'entre nous, ben on se planque. Et en fait, la première apparition de Gédéon, c'est quelqu'un qui est planqué parce qu'il est dans une situation qu'il dépasse complètement. Alors tu vois, à l'intérieur de toi, ça peut être justement une émotion, une sensation, ça peut être ton histoire, ça peut être les accusations que tu as vécues pendant ta vie, ce qu'on a dit sur toi, ou bien effectivement ce qui est autour de toi et qui est suscité par des événements qui te font vraiment peur. Et comment tu te positionnes par rapport à ça?
Alors vous disiez se cacher parce que justement le jeune Gédéon, il est dans son pressoir, il est en train de battre le blé, les troupes des Madianites passent autour et effectivement il se cache et pourtant Dieu va venir le rencontrer.
Alors c'est incroyable, hein, c'est-à-dire il est dans un pressoir pour battre le blé, enfin on n'est pas en train de on fait n'importe quoi, là souvent on se dit que dans l'époque où nous sommes, nous marchons sur la tête, alors c'est vrai, il est dans son pressoir pour battre le blé, et parfois on a l'impression de faire n'importe quoi dans cette période de pandémie, on nous pousse à faire des gestes que l'on fait parfois peut-être sans même savoir s'ils sont vrais, s'ils sont justes, si on est dans la bonne direction. En tout cas, c'est quelqu'un qui doit se planquer parce qu'il y a une situation de danger et Gédéon, il fait comme il peut.
Il fait comme il peut et pourtant, il est trouvé. Puisque c'est non pas par les Madianites, mais par l'ange du Seigneur qui va arriver. Et alors ce qui est très étrange, c'est que l'ange du Seigneur l'interpelle en lui disant « vaillant guerrier ». Il le baptise guerrier alors même que Gédéon, à ce moment-là, n'a absolument rien d'un guerrier.
Tu entends, guerrière, guerrier qui nous écoute en ce moment, eh bien ça c'est toi justement, parce que c'est toi et moi lorsque nous sommes dans la situation où on essaye de sauver quelque chose. Et regarde, depuis le début de cette pandémie par exemple, où je te répète, regarde dans la crise que tu peux vivre, comme moi, comme chacun d'entre nous, dans ce qui est difficile pour nous, on essaye de sauver quelque chose. Alors c'est ça que Gédéon, le planqué, mais il ne peut pas faire autrement, il essaye de sauver le peu de grain, le peu de lui-même finalement, que la crise lui permet de gérer encore un petit peu. Et il est planqué, et effectivement Dieu va lui rappeler qui il est. Et tu vois, cher ami, Dieu est en train de te rappeler à toi-même qui tu es au plus profond de toi-même, c'est-à-dire de te rappeler ta dignité, de te rappeler que tu es fait, non pas pour te planquer, mais tu es fait pour être un héros, tu es fait pour être une héroïne. Et cela, c'est l'apparition de cet ange. Et tu vois, c'est très intéressant parce que la façon dont l'ange apparaît à Gédéon... Alors, je te rappelle que nous sommes au chapitre 6 du livre des Juges, hein, pour que tu puisses ensuite retourner voir dans ta Bible. Tu peux même la prendre chez toi si t'es pas trop loin de ta Bible. Et on voit comment l'ange apparaît à Gédéon. Qu'est-ce qu'il est, Gédéon, à ce moment-là? Ben, il est un consommateur. Et toute la première partie du livre de Gédéon va me mettre en contradiction avec la dimension de l'avoir.
Qu'est-ce qu'il consomme, Gédéon, à ce moment-là?
Oh, il consomme son désespoir, parce qu'il n'en peut vraiment plus. Il consomme sa tristesse, il consomme sa rage, il consomme sa frustration. Et en fait, il se bouffe lui-même, quoi. En mettant de côté le peu de blé qu'il a, il consomme son blé, quoi. Il est en train de tout perdre en essayant de tout sauver, parce que il a. Tu sais, quand tu es en train de battre le blé dans le pressoir, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes en bas, quoi. Et il a oublié de regarder en haut. Et lorsque l'ange lui apparaît, c'est comme un... Tu vois, comme toi, quand il t'arrive de réfléchir et que tu fais un dialogue à mi-voix, lorsque tu ne sais pas si tu rêves ou si tu es éveillé, lorsque tu ne sais pas si tu es dans le spirituel ou dans le psychologique, et il parle à cet ange, alors qu'on sait très bien que dans la Bible, l'ange, c'est en même temps Dieu, mais sans savoir exactement à qui il parlait. Parfois, toi aussi, tu es perdu dans tes réflexions, tu ne sais pas exactement où tu en es, tu entends mais tu ne crois pas. Combien de personnes aujourd'hui, puis toi et puis moi, c'est pareil, on entend mais on ne croit pas, on ne va pas jusqu'au bout de notre foi. Alors ils discutent un peu du bout des lèvres et ils rétorquent à l'ange, mais pourquoi tu m'interpelles comme ça, on est vraiment mal fichu, quoi. On est... Où elles sont les promesses de Dieu?
Et puis alors, justement, voilà, il regarde en bas, mais il regarde aussi le passé. Vous disiez, où elles sont les promesses de Dieu? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères? C'est intéressant aussi de savoir qu'est-ce qu'on lui prête comme pouvoir à Dieu. Qu'est-ce qu'on raconte de Dieu? Et qu'est-ce qu'on a raconté aussi de lui pendant la pandémie? Au fond, c'était quoi ces prodiges? Et est-ce qu'on était dans un songe avant? Est-ce qu'on a imaginé des pouvoirs à Dieu?
Et... Parfois, c'est une très bonne question, parce que parfois on oscille entre l'idéalisation de Dieu, ce Dieu qui est un peu un distributeur automatique de solutions, et puis quand le bouton ne marche plus, quoi, parce qu'on ne sait plus quelle monnaie y mettre, et la seule monnaie, si Dieu était un distributeur, mais il ne l'est pas, mais enfin, utilisons le parallèle jusqu'au bout, c'est l'amour. La seule monnaie, c'est l'amour. Et lorsqu'on remplace l'amour par la peur, ce qui est le cas de Gédéon, ben ça ne marche plus. Mais Dieu vient à notre secours. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dieu ne nous lâche jamais. Même si nous avons de fausses images de Dieu, Dieu va se servir de tout, y compris de la crise, y compris du Covid, y compris de tous les mauvais traitements que nous avons opposés à la crise. Dieu va se servir de tout pour nous rappeler qu'il est un Dieu d'amour miséricordieux et que non seulement il va intervenir, mais qu'il va te faire intervenir pour que tu aies la fierté de prendre ta place.
J'ai quand même extrêmement hésitant. Et c'est pourtant lui que Dieu appelle, tu vas sauver Israël du pouvoir de Madian. C'est assez incroyable. Et le Seigneur regarde Gédéon pour lui dire ça.
Et le Seigneur te regarde aussi à toi, cher auditeur, chère auditrice. Le Seigneur te regarde aussi à toi et il te regarde personnellement. Et toi, c'est ça que tu as un petit peu oublié. Et c'est ça que l'effet pervers de la crise et du traitement de la crise, chacun fait comme il peut, hein, mais nous induit à vivre, hein, c'est-à-dire à vivre comme dans une masse. Et c'est de là aussi que vient notre révolte, et parfois révolte mal placée qui va se focaliser sur des solutions et des anti-solutions qui ne sont pas les bonnes, parce que ce qui a été nié, c'est notre identité, c'est notre personnalité, on a été massifié. Mais je répète, chacun a fait comme il a pu pour la gestion de la crise. Mais ce ne sont pas les hommes qui sont nos ennemis. Ce qui sont nos ennemis, c'est l'esprit du mal qui est derrière et qui veut justement, comme c'était le cas pour Gédéon, nous isoler, faire de nous des entités où chacun essaye de prendre ce qu'il peut prendre. Au maximum, on va vivre des révoltes collectives, mais on a perdu notre capacité personnelle d'entrer en relation les uns avec les autres, parce qu'on a perdu parfois la relation personnelle avec Dieu.
Mais parce qu'on se croit abandonné aussi. D'ailleurs, Gédéon, pareil, se sent abandonné. Qui peut nous sauver ?
Qui peut nous sauver ? Et cela, c'est en cela que, justement, on est restauré dans notre relation à Dieu, dans notre identité de héros. Et c'est le fils, c'est la fille qui est en toi, c'est qui nous sommes en fait vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire Dieu nous rappelle que nous sommes des personnes extraordinaires. Dieu nous redit que nous sommes des personnes extraordinaires, que la vie qui est à l'intérieur de nous est une puissance extraordinaire, mais qui va rester masquée tant que nous sommes dans l'avoir et dans l'accumulation. Et c'est à ce moment-là que Dieu va susciter à l'intérieur de Gédéon une autre dimension. Il va l'appeler à passer de l'avoir à l'action, de l'avoir au faire. C'est-à-dire qu'il va le faire se relever et empoigner ses armes de héros.
Avec la force qui est en toi. C'est vraiment une phrase intéressante et c'est aussi ce qui va guider Gédéon. Et alors Gédéon, il commence à dire oui. Il engage un premier oui, d'ailleurs. « Donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parle. » Il va malgré tout poser une condition. Alors, qu'est-ce qu'il cherche quand il demande ce signe ? C'est nous aussi, ça, aujourd'hui.
Alors, ce que nous cherchons, c'est un peu comme Marthe avec Jésus. Hein. « Oui, Seigneur, je sais que si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Je crois qu'il va ressusciter, mais... » Bon, alors enlève la pierre. « Ouais, ouais, mais il sent déjà, quoi. » Et c'est ce dialogue où on est prêt à être des martyrs, mais dès qu'on a un petit rhume, on dit au secours le médecin, quoi. Et en fait, c'est cette ambivalence que nous portons tous à l'intérieur de nous entre notre condition humaine ressentie dans notre chair, parce que Gédéon, il a faim aussi, même au sens strict du terme, et en même temps l'idéal qui est à l'intérieur de nous. Parce que lorsque Yahvé appelle Gédéon à lui offrir un sacrifice, Gédéon le fait, c'est-à-dire que t'es prêt à offrir ton sacrifice, toi aussi qui m'écoutes, tu es prête à offrir ce sacrifice. Dieu lui demande d'apporter une offrande, et puis il y a quelque chose de fulgurant qui se passe, et toi aussi tu as des signes, en même temps que ta capacité inouïe d'oublier les signes. Ça, c'est important d'avoir cette capacité de s'en rappeler. Mais on veut une assurance. On veut une assurance, on voudrait être sûr, on veut accumuler les sécurités.
Alors on veut accumuler les sécurités, et Gédéon aussi veut avoir ses signes, mais d'un seul coup, il se reprend, c'est assez curieux cette phrase, « Malheur à moi, Seigneur mon Dieu, pourquoi donc ?» Ai-je vu l'ange du Seigneur face à face ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a comme un mouvement de panique. Pourquoi est-ce que moi, j'irai servir le Seigneur ? Et pourtant, il vient d'avoir ce signe de l'offrande.
Ça, c'est vraiment merveilleux. C'est tous les moments où on voudrait que Dieu nous prenne au sérieux, quoi. Et peut-être, j'espère aussi que parmi nous, il y a des jeunes qui regardent des séries de super-héros de quelque manière dont on les appelle aujourd'hui. Et puis au moment où on est mis sur le devant de la scène, parfois on retourne comme des moutons de panurge, parce que on se rend compte vraiment de qui est Dieu, c'est-à-dire de la transcendance et de la puissance de Dieu. Et on a peur de la propre puissance qui est en nous parce qu'elle nous dérange, parce que finalement, c'est plus facile de rester là à râler, franchement. C'est tellement plus tranquille de rester là à rouspéter que de se lever tranquillement et courageusement et de prendre sa place. Parce que lorsqu'on est devant la transcendance de Dieu, on sait qu'on ne peut plus mentir, qu'on est dans le vrai face-à-face avec Dieu, et Dieu nous révèle qui nous sommes. François d'Assise disait « Qui es-tu et qui suis-je ?» C'est-à-dire, c'est seulement dans cette connaissance de la transcendance de Dieu que je peux connaître qui je suis. Et là, je ne triche plus. C'est la vraie pleine conscience, hein, pour ceux qui sont fans de ce truc-là. Et c'est la seule pleine conscience même qui existe. C'est-à-dire, c'est Dieu qui te dit qui tu es. Et Dieu, il te dit à chaque fois « Lève-toi !» Comme il va dire à Matthieu « Lève-toi !» Viens et suis-moi, comme il dit aux apôtres qu'il rencontre les yeux dans les yeux. Viens, lève-toi et suis-moi. Et à toi qui m'écoutes en ce moment, il te dit, lève-toi. Reste pas là à écouter, lève-toi. Parce que Dieu t'appelle à suivre cette inspiration. Dieu, il a un rêve fou pour toi. Parce qu'il t'a pas créé juste pour te partager un petit peu de bonheur. Dieu est émerveillé lui-même par ce bonheur qui est à l'intérieur de toi, qui est son œuvre, mais comme un père s'est éveillé, la dignité de son fils. Et je vais te dire, c'est étrange, mais tu sais, il y a même quelque chose qui échappe à Dieu de qui tu es. Il t'a donné une telle liberté, et il va construire cette liberté avec toi. Dieu est passionné de ce qu'il a mis en toi, et qui lui échappe à lui-même. Alors ça, c'est... Autant c'est une surprise pour Dieu, autant c'est une surprise pour toi, parce que tu t'aperçois que Dieu te prend vraiment au sérieux et qu'il est un interlocuteur extraordinaire.
Daniel Marie, on poursuit avec vous la découverte du livre de Gédéon. Alors Gédéon, il est appelé par Dieu pour aller combattre les Madianites qui sont en train de tout ravager dans les environs. Il commence à demander des signes pour être bien sûr, comme vous le disiez, être rassuré. Et puis voilà qu'il a un songe pendant la nuit qui lui demande de détruire l'autel de Baal de son père. « Tu bâtiras au Seigneur ton Dieu un autel selon les règles. » Alors est-ce que ça veut dire que... Pour manifester notre attachement à Dieu, il faut commencer par détruire nos idoles. Et dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait ? Comment on procède ?
C'est un peu dingue parce que l'idole qui lui est demandé de détruire, c'est l'autel, comme il vient d'être dit, l'autel de son père. C'est-à-dire qu'il faut que tu passes de la foi de tes parents, de la foi qui t'a été transmise, à ta foi à toi. Et ça, c'est pour ça, il faut un esprit d'enfance. C'est-à-dire qu'il faut que tu laisses tomber ce qui t'a été donné. Parce que tu sais, la foi, elle ne se transmet pas. On ne transmet pas la foi. On transmet les conditions de la foi. Les conditions pour rencontrer la foi. Mais la foi, c'est toi qui dois te l'approprier. Et c'est pour ça que tu dois détruire même ce qui pouvait sembler de bon chez ton père. Bon, c'est un processus psychologique, mais si l'on reste... à la psychologie, on reste au niveau de l'âme, mais on ne va pas au niveau de l'esprit. Et dans bien des cas, la psychologie est un super instrument et qui nous permet justement ensuite de lâcher les rênes pour l'esprit, pour comprendre que c'est dans cette dimension de relation personnelle à Dieu que tu vas pouvoir trouver la pleine dimension de toi-même. Et finalement, l'idole, c'est toi-même, quoi. C'est-à-dire, c'est ce dont tu t'étais approprié. Et là, il faut que tu lâches tout et encore une fois, laisser à Dieu la place d'être Dieu. Tu remplaces, si tu veux, ton père par Dieu lui-même.
Mais est-ce que vous diriez que pendant la pandémie, on a développé des nouvelles idoles ? Ou est-ce qu'on en développe en permanence ? À quoi on s'attache aujourd'hui dans ce climat où on est un peu perdu ?
Moi, ce que j'entends dans les discussions, parce que sur ma boîte mail m'arrivent d'innombrables fake news de toutes sortes, c'est un espèce d'égocentrisme de gens qui se sont construits toute une série de convictions et de fausses convictions. Moi, ce que j'aime bien entendre, par contre, c'est les gens qui disent « la pandémie, le vaccin et le reste, on s'en fiche, de quel côté que l'on se place ?» Et on continue de bosser pour Dieu, quoi. Et souvent, on a remplacé les débats de ce style-là, ou les peurs qu'on pouvait avoir, on les a mises là, on les a mises à la place de Dieu.
Dans cette période, est-ce qu'on ne sait plus ce qu'on doit véritablement prendre au sérieux ?
Mais je crois qu'on en est là. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de dire qu'on élève au-dessus de tout, on élève au-dessus de tout la parole de Dieu. Il est important de dire, nous avons la pensée de Christ. Et parfois, nous nous sommes laissés focaliser sur des débats qui nous ont divisés en famille, en église. Et c'est très très clair, par exemple, sur la question du vaccin ou des choses comme ça, en oubliant de mettre par-dessus tout, la parole de Dieu. Et c'est là où Gédéon se laisse interpeller, c'est parce que c'est l'ange lui parle directement et Gédéon entend qu'il y a une parole de Dieu qui est par-dessus tout. Et lorsque l'on discute de ceci ou de cela, faisons-le à la lumière de la parole. On ne fait jamais une programmation sans la parole. On ne fait jamais une relecture sans la parole. Et c'est à la lumière de la parole seulement que nous pouvons lire l'actualité. Moi, je pourrais entrer beaucoup plus dans les détails, mais je ne veux pas le faire parce que ce n'est pas le lieu. Mais sur les questions du Covid, du vaccin, à chaque argument qui nous est donné, on peut mettre la parole de Dieu. On peut mettre la parole de Dieu. Et si je vous dis par exemple, allez, je mets les pieds dans le plat, je vous dis par exemple, il est dit dans la parole, même s'ils boivent un poison mortel, cela ne leur fera pas de mal. Alors tu es tenant du vaccin, tu es pro-vax ou anti-vax, mais écoute, le poison mortel, c'est ce que tu veux, c'est le vaccin ou c'est aussi le Covid. Donc tu vois que je te dis pas et je prends pas position, mais juste pour te donner un angle, pour te dire par-dessus tout, fais comme Gédéon, mets la parole, mets-toi à l'écoute de la parole. Et ensuite, bon, intelligemment, tu fais tes choix et je te dis pas ce que tu dois faire. Je te dis simplement, fais comme Gédéon, mets la parole de Dieu par-dessus tout.
Gédéon, il met effectivement par-dessus tout la parole de Dieu puisqu'il va réellement détruire cet autel. Et alors le matin, c'est le drame, les habitants se réveillent, il n'y a plus cet autel devant lequel ils venaient consacrer leurs offrandes. Ils cherchent un coupable. Qui a fait cela ? C'est un peu aussi ce qu'on fait parfois quand quelque chose arrive. Mais pourquoi cette malédiction ? À qui la faute ?
À qui la faute ? Alors que la solution, elle est auprès de la croix de Jésus. Elle est auprès de la croix de Jésus. Il est dit, on est au verset 30 du chapitre 6 toujours, « Fais sortir ton fils et qu'il meure. » Hein, c'est vraiment Jésus qui sort de la ville et qui meurt. Et le Père qui, au contraire, dit, « Est-ce à vous de défendre l'ennemi ? Est-ce à vous de lui venir en aide ?» Et là, Gédéon fait l'expérience qu'il a un Père. Et tu vois, à partir du moment, mon frère, ma sœur, où tu vas prendre des risques pour Dieu, pour obéir à la parole de Dieu, tu vas découvrir la paternité de Dieu. Et là, Gédéon redécouvre une paternité. Tout comme François d'Assise qui a redécouvert la paternité de Dieu. Toi, tu vas redécouvrir sa paternité lorsque tu vas obéir à sa parole.
Et alors Gédéon ne peut pas s'empêcher de redemander à Dieu des signes. Il va demander cette fois des signes que j'ai trouvé très amusants, puisqu'il va déposer une toison dehors et il va demander à Dieu que la rosée tombe sur la toison, mais uniquement sur la toison, et que tout le reste du sol soit sec. Et le lendemain matin, le reste du sol est sec. Il continue, il refait ce qu'on a appelé donc l'épreuve de la toison, mais cette fois-ci, il demande à ce que la toison soit sèche et qu'il y ait de la rosée tout autour du sol. Il a de drôles d'idées quand même, ce prophète. Est-ce que nous aussi, on est parfois un peu curieux dans notre attitude avec Dieu ? Qu'est-ce qu'il fait ?
Moi, je dirais que la chose la plus curieuse, c'est quand on ne parle pas à Dieu. Et que justement, lorsqu'on reste avec nos doutes, et l'ennemi, le Satan, l'accusateur et le tentateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut te replier sur tes propres pensées, sur tes propres doutes. Il veut te faire faire de l'introspection, il veut te replier dans tes raisonnements. Alors que ce que tu dois faire, c'est justement parler à Dieu. Il ne s'agit pas de le mettre à l'épreuve, il s'agit de lui poser des questions. Et il te répondra toujours. Lorsque tu poses des questions à Dieu, Dieu te répondra toujours. Il te répondra à travers un panneau publicitaire, il te répondra en ouvrant la Bible, il te répondra en ouvrant une émission sur RCF, il te répondra de toutes les façons. Moi, je rencontre plein de gens, tu sais, qui ont des problèmes, et je leur dis « Mais t'as prié pour ça ?» Ils me disent « Ben non ». Bah écoute, si t'as pas prié pour ce qui te tient à cœur, parfois je me demande pourquoi tu pries, ou si tu pries vraiment, ou si le Dieu qui est le tien est un Dieu qui est un interlocuteur pour toi. Et moi je te dis, mon frère, ma sœur qui m'écoute en ce moment, parle avec Dieu. Mais Dieu, il n'attend que ça. Dieu, il n'attend que ça. C'est quelqu'un qui t'écoute vraiment et il veut te parler.
Alors Gédéon s'apprête à partir pour le combat. Cette fois, c'est décidé, il a bien eu les signes de Dieu, et cette fois, c'est Dieu qui va faire un peu le tri dans toute son équipe. Il a réussi à rassembler des centaines d'hommes, ils sont tous prêts à venir combattre avec Gédéon. Mais voilà que Dieu aimerait que l'action qu'il va mener soit véritablement comprise comme étant celle de Dieu. Est-ce que c'est pour laisser une place à l'action de Dieu ?
Alors, c'est là où on en est au troisième passage, c'est-à-dire que dans un premier temps, je disais que Gédéon est dans la dimension de l'avoir, c'est-à-dire qu'il il essaye d'accumuler le blé qui lui reste pour sauver quelque chose. Dans la deuxième dimension, il accepte de se lever et puis d'être dans la dimension du faire, de l'action, d'être un combattant, et là, il entre dans la dimension de l'être, qui est le fait de se laisser faire par Dieu. Et Marthe Robin disait « Dieu nous construit en nous démolissant ». Alors c'est une parole un peu violente, parce que tu dis « bon, quoi, et j'essaie de sauver mon truc, ok, j'accepte de me battre pour Dieu, ok, mais là maintenant, il faut que je me laisse démolir ». En fait, c'est démolir quoi ? C'est démolir encore cette partie de l'ego de toi-même qui t'emprisonnait, tu sais, comme lorsque David laisse tomber la cuirasse de Saül parce que cette cuirasse est trop lourde. Et moi, je te dis, mon frère, ma sœur, tu es en train de te porter une cuirasse qui est trop lourde pour toi, tralala. C'est-à-dire que si tu regardes bien, tu vas pouvoir voir aussi Dieu qui t'appelle et qui te dit, prenez sur vous mon joug parce que mon joug est léger. Et je te répète, mon frère, ma sœur, souvent t'es en difficulté comme moi parce que nous portons des cuirasses qui sont beaucoup trop lourdes. Et là, Dieu dit, là tu veux être chef, tu veux être commandant, mais tu fais comme tout le monde finalement. Et moi je te prends tellement au sérieux que je ne veux pas que tu sois comme tout le monde. Je veux que tu puisses me faire confiance. Et l'enjeu est là.
Et en effet, c'est vrai que Gédéon va partir avec des armes qui n'ont rien de celle d'un combat, puisqu'il part avec des cruches, avec des corps, avec des torches, et un cri de guerre, guerre pour le Seigneur et pour Gédéon, donc tout le monde s'en va combattre. Le combat est gagné, Gédéon revient, il est vainqueur, et on arrive à la fin de cette émission avec un Gédéon qui a gagné. Tout le monde veut le faire roi, bien sûr, ça fait un beau héros, mais il refuse. Et comment va se terminer cette histoire ?
Alors cette histoire, elle va se terminer avec la queue du serpent, on appelle ça. C'est-à-dire que quand tu t'es vraiment laissé faire jusqu'au bout, lorsque tu as laissé faire Dieu et que tu lui fais vraiment confiance et que tu vois de façon émerveillée que Dieu a vraiment agi dans ta vie et que ça te donne envie de continuer, il va y avoir même tes meilleurs amis qui vont venir faire des reproches et qui vont te dire « Ah, pourquoi t'as pas fait ceci ? Pourquoi tu nous as pas associés à ta victoire ?» Et c'est complètement dingue parce que t'as gagné pour tout le monde, t'as fait du bien à tout le monde. Alors prépare-toi à ça. C'est-à-dire que Dieu va toujours te laisser cette petite part d'inquiétude, de souffrance, pour que tu n'oublies pas le combat, justement. Et le combat le plus grand, c'est que tu laisses Dieu combattre avec toi et combattre pour toi.
Merci, frère Marie-Daniel. Je rappelle que vous êtes frère franciscain à Bruxelles, ici, au couvent de Saint-Antoine. Et j'invite les auditeurs à se replonger dans cette histoire que nous avons racontée, drôle d'histoire de Gédéon. C'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Il faut ouvrir le livre des Juges, où on était au chapitre 6 à 8. Merci beaucoup.
À bientôt.